bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur PFM 99.9, Radio PFM en direct de l'hôtel de Guine à Arras, entre le théâtre et le palais Saint-Va. C'est rue des Jongleurs pour celles et ceux qui ne connaissent pas et on est en direct du cabaret des Colères. Le cabaret des colères, eh bien, c'est une semaine organisée par l'association Colère du Présent, la même association qui organise chaque année à Arras le 1er mai l'excellent Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Et cette même asso vous propose donc à partir d'aujourd'hui un événement fait de rencontres, de débats, d'expos, de théâtre, de projections, de films, sans oublier des émissions de radio en public et en direct. Et aujourd'hui, si tout va bien, eh bien, ce sera l'anarchie sur le studio de Radio PFM, puisque c'est une carte blanche normalement à Arte France, en partenariat donc avec l'association Colère du Présent, et notamment la projection du documentaire de Tancrède Ramonet, Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchie. Un documentaire qui retrace l'histoire d'un des mouvements politiques les plus féconds et de ses grandes figures. Une histoire aux nombreux rebondissements qui alimentent encore aujourd'hui les réflexions et les actions environnement, nuit debout, etc. Une pensée qui, malgré ses défaites, n'a jamais cessé de renaître de ses cendres. La projection aura lieu à 20h30 de ce documentaire et puis eh bien, on attend nos invités éventuels et pour l'instant virtuels sur le plateau de Radio PFM. Eh ben, en attendant, on va mettre un petit peu de musique avec la Vermine.
Vous savez ce que j'aime chez vous ? Vous ne vous plaignez pas. Bah, vous savez ce qu'est la dignité ? La dignité est ce qui manque notre société. Tout le monde pleurniche, tout le monde réclame ses droits. On vit dans une société d'assistés. Partout les syndicats, par les rouges, gagnent littéralement. Ils réclament des congés maladie. Des congés maladie qu'ils veulent qu'on les paye pour être malade. Pour être malade. Bah oui, mais payez-moi pour être mort et tomber d'une machine. C'est un complot pour nous étrangler, pour nous sucer le sang. Je vais vous dire, le problème, c'est les communistes. Il y a les socialistes, les gauchistes, peu importe. Et elles savent les fondements de notre société. C'est comme un cancer.
Toute résistance est futile, putain. En tant que chant des mutins, c'est mutiné. Pas pour le putain, mais pour une victime. Face à tant de dédain, putain, c'est mutile. Pas de compromis ni but ultime. Si ce n'est sortir du purin, y croit qu'on l'a choisi. Surnager dans la merde, elle était pas moisie. Voudrait qu'on l'accepte pendant qu'il crée les lois et que la justice s'achète. Contre une sans pompe par mois pour connaître que la dèche c'est tant d'aphasie. S'enfuir est inutile, se contre la mutinerie. Quand s'affranchir des chefs est un principe inné. Notre seul but ici, bienvenue dans la légende. L'histoire s'écrit ensemble, si on y met du sien. Le rime d'allégeance ou le chant des mutins, c'est à toi de choisir. Collaborer ou faire brûler l'empire. Combattre ou voir leur domination perdurer en pire. C'est à toi de choisir. Ouais, l'heure est à la mutinerie et là où tu peux le sentir.
La ignorer les hommes. Mes amis, notre société est en période de transition.
L'heure est à la mutinerie.
Ce n'est qu'un petit groupe de résistance et il n'y a aucune raison de penser qu'il représente une véritable menace.
La vermine. C'est le chant des mutins.
Le groupe La Vermine avec le chant des mutins choisi pour nous par Boris. On est toujours en direct sur Radio PFM 99.9 à l'hôtel de Guine en direct de cet événement, le cabaret des colères. Hein, ce soir, il y a la projection de ce film autour de l'histoire de l'anarchie. Alors, normalement, on devait interviewer dans cette émission le réalisateur du film, Tancrède Ramonet, hein, qui est le fils de Ignacio Ramonet, un journaliste du monde diplomatique, hein, qui a été, je pense, chef de rédaction de ce journal pendant longtemps. Mais donc Tancrède Ramone est au fond de son lit, donc apparemment il est en train de, d'agoniser et de boire de la soupe. Donc peut-être s'il nous écoute, on lui passe le bonsoir. Du coup, on va quand même essayer de parler du film, parce que pour donner peut-être aussi envie aux gens qui nous écoutent de venir ici à l'hôtel de Guine pour voir ce film, mais aussi pour discuter après le film. Alors Boris, toi tu as vu ce film?
Ouais, j'ai vu une partie, hein, parce que c'est quand même un gros document. Il y a plus de 5 heures à peu près, voire 4h50 de documentaire avec des compléments. Et puis, il y a deux parties, en fait. La première partie se passe au début, hein, donc du mouvement anarchiste qui est né en 1840 jusqu'à 1911. Et puis, la deuxième partie est consacrée beaucoup plus à l'après, on va dire, vers 1915 jusqu'à 1945.
Alors, pour rassurer les auditeurs et les auditrices, je pense pas que Colère du Présent va passer les 4 heures du documentaire ce soir. Je pense que je sais pas si c'est une partie ou en tout cas un extrait. Le but, hein, c'est de projeter une partie du film et puis qu'il y ait rapidement quand même un échange autour des idées et puis du documentaire dans la salle, quoi.
Ouais, alors en tout cas, je peux dire que c'est en deux le documentaire est en deux volets. Après, il y a une autre partie qui est consacrée à un supplément, notamment avec une interview, une longue interview avec Noam Chomsky, et puis d'autres focus sur des faits qui se sont passés donc dans le mouvement anarchiste depuis la création jusqu'à nos jours. Il y a un troisième volet normalement qui est en cours de réalisation, mais qui a du mal à décoller puisque c'est plutôt notre époque, et finalement on sent quand même qu'il y a une certaine forme de censure qui est sur ce troisième volet qui est en cours, hein, et de finalisation, et la complexité aussi à évoquer l'histoire récente. Donc le mouvement anarchiste est né en 1840. C'était plutôt un brûlot contre la propriété, hein, qui était accusée de viol. C'était au début du 19e siècle et ça a été instauré. Le père fondateur, on va dire que c'est Pierre-Joseph Proudhon, qui est originaire du mouvement ouvrier. C'est un typographe, mouvement ouvrier populaire. Alors évidemment, le prolétariat, c'était la base un petit peu. Il n'y avait pas de jour de repos, il n'y avait pas d'assurance, pas de, on va dire, d'aide sociale pour ces gens. Donc c'est là qu'est né ce mouvement avec Pierre-Joseph Proudhon. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter tout de suite une phrase qui fait partie du documentaire, un petit jingle, on va dire, une sorte d'extrait qui va vous illustrer un petit peu ce qu'est vraiment le mouvement anarchiste à la base.
Proudhon, il est né à Besançon au début du 19e siècle. Et contrairement à la majorité des autres théoriciens socialistes ou même anarchistes, il est issu d'un milieu d'origine populaire. Et la grande force et aussi la grande originalité de Proudhon, c'est justement de savoir de ce qu'il parle lorsqu'il dénonce les inégalités sociales ou les injustices sociales.
Pierre-Joseph Proudhon, c'est aussi un ouvrier, c'est un typographe qui sait lire et écrire, qui est capable non seulement de composer des textes, non seulement de les rédiger avec une plume, mais de les composer et de faire en sorte que cette pensée se matérialise en devenant un livre. Et c'est cette fascination qu'il va trouver dans son métier de typographe qui va l'amener à rédiger un certain nombre de textes qui vont effectivement circuler dans la France de l'époque.
En 1840, Proudhon rédige le mémoire qui le rendra célèbre. Qu'est-ce que la propriété? Si la réponse qu'il apporte à cette question, la propriété, c'est le vol, fait aussitôt scandale, c'est la profession de foi qu'il prononce quelques lignes plus bas qui constitue le véritable acte de naissance de la pensée anarchiste. Une formule paradoxale qui dit déjà presque tout.
Eh bien, vous êtes démocrate? Non. Quoi, vous seriez monarchique? Dieu m'en garde. Vous êtes donc aristocrate? Point du tout. Vous voulez un gouvernement mixte? Encore moins. Qu'êtes-vous donc? Je suis anarchiste. Quoique très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste.
Au même moment où il va se dire anarchiste, il prononce que la propriété, c'est le vol. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il pointe la propriété comme étant le fondement d'un certain ordre social. Et se dire anarchiste, c'est dire « je m'en prends au fondement » de l'ordre social repéré comme étant la propriété.
Proudhon va même encore plus loin, puisque pour lui, il y a une espèce de lien étroit entre la domination politique exercée par l'État, la domination économique exercée par le capital, et la domination religieuse exercée par l'idée de Dieu. Et donc Proudhon est véritablement le père de l'anarchie, puisque c'est le seul qui relie ensemble ces trois formes de domination, et il pense qu'il faut les détruire en même temps si on veut effectivement changer de structure sociale.
Voilà, on écoutait un extrait de ce documentaire qui sera proposé donc ce soir ici à l'hôtel de Guine à Arras. Boris, un petit mot sur ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, bah donc c'est le démarrage. Hein. Voilà, c'est Pierre-Joseph Proudhon, c'est le père fondateur, comme on disait. Alors, quand tout à l'heure, j'ai peut-être commis un petit lapsus, j'ai dit viol au lieu de vol, mais en fait, c'est un peu pareil, hein, parce qu'on volait un petit peu et on violait un petit peu l'intégrité des prolétaires. Donc, ça revient au même, à mon avis. Donc, ce Pierre-Joseph Proudhon va énormément influencer toute la classe ouvrière, mais pas que, puisque du côté de la Russie, du côté de l'Union soviétique, on va dire à l'époque, du côté aussi de l'Argentine, de l'Espagne surtout, du Brésil, les anarchistes vont vraiment se multiplier. Et nous arrivons avec notre premier invité arrive, François, donc de Colère du Présent, qui vient juste d'arriver.
Il t'es à la bourre, François.
Il n'est plus virtuel.
Vive l'anarchie.
Voilà. Alors déjà qu'on n'a pas d'invité, en plus, si nos invités de nos plans B nous plantent, ça va ?
Bon, finalement, vous faites assez bien à la fois les questions et les réponses.
Ouais, on essaye. Bon, c'est un peu l'anarchie, oui. On va dire que c'est le thème un peu, voilà quoi. Donc on évoquait justement ce début 1840 avec Pierre-Joseph Proudhon, qui est l'un des pères fondateurs du mouvement anarchiste. Alors, en France.
Ce qui m'a étonné un petit peu là, dans le discours, c'est qu'à la base, finalement, c'est la remise en cause de la propriété. Alors que c'est vrai qu'on a plutôt l'idée de l'anarchie plutôt comme remise en cause de la religion, du patronat, et puis de manière générale de l'organisation sociale qui se veut plutôt dans l'anarchie horizontale. Là, c'est vraiment la question de la propriété qui est au centre du discours de Proudhon, quoi.
Il y a aussi les deux termes qui reviennent souvent, c'est liberté et égalité, qui ne vont pas l'un sans l'autre. Et j'attends justement que François m'éclaire là-dessus.
Alors en fait, si on reprend la philosophie, on va dire, de l'anarchie, finalement, l'anarchie, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est de traverser au passage piéton parce qu'on sait que c'est bien pour soi et pour les autres. Le fondement de l'anarchie, il n'est pas dans le désordre, il est dans un ordre autogéré. Et le cœur, il est là. Et effectivement, il y a du coup la remise en cause de la propriété, parce que c'est le bien pour soi, finalement, la propriété, c'est pas le bien pour tous. Donc je pense que fondamentalement, il y a ça. Après, il y a eu, et c'est ce qu'on voit très bien dans le documentaire, une attaque en règle contre les anarchistes, une chasse aux anarchistes, qui a conduit aussi à ce que ces anarchistes lancent des bombes, soient dans la violence. Alors, je ne sais pas si vous avez abordé ce sujet-là déjà.
Pas encore.
Ben voilà, c'est l'occasion, c'est pour ça que je suis venu. et que finalement, ces mouvements où on associe les anarchistes aux jeteurs de bombes, ça a été aussi une réaction. Et donc, ça a été une réaction peut-être assez difficile, violente, etc. On parle de terrorisme aujourd'hui, c'était le terrorisme de l'époque. Mais finalement, c'est pour un idéal qui a été dévié dans ces jets de bombes, mais un idéal qui est quand même très fort et très important, et finalement qui est un idéal démocratique. Et je pense que c'est ça qu'on voit très bien dans le documentaire aussi.
Alors, propriété aussi, puisque après, évidemment, il y a un courant qui va, naître de ce premier mouvement anarchiste, c'est l'individualisme. Et la propriété, c'est aussi anticapitaliste. Alors, c'est à la base, c'est un peu ça aussi l'anarchisme. Et puis, après, il y a là aussi, si on va un peu plus loin, la Commune de Paris en 1871, où il y a eu plus de 20 000 morts. Et puis, ce mouvement anarchiste, qui était jusqu'alors un mouvement pacifiste, se pose la question lorsqu'il y a eu la tuerie à Fourmies. Si l'État peut agir aussi violemment en répandant autant de sang, alors nous aussi, on peut agir comme lui. Et là, c'est la naissance justement de cette fameuse, on va dire, période où il y a eu des bombes qui ne tuaient pas forcément des gens au départ, qui était plutôt, on va dire, contre les institutions. Et puis, bah, après, comme chacun sait, il y a toujours des débordements. Et voilà.
Exactement. Et c'est vrai que ça, c'est, on voit très bien, et j'ai coupé Nico dans sa relance, juste, il a pris son inspiration là, pour parler dans le micro, et puis finalement, j'ai parlé à sa place. Mais on voit très bien, par exemple, l'influence que peuvent avoir ces réflexions sur des mouvements comme Podemos aujourd'hui, ou le Parti Pirate en Islande, ce qu'on va voir d'ailleurs dans 6 mois lors du Salon du Livre d'Expression Populaire et des Critiques Sociales, c'est que finalement, ces mouvements disent clairement qu'on peut avoir raison, celui qui a raison à la fin, c'est celui qui tient le fusil. Et que finalement, c'est la force et c'est cette violence qui s'est exprimée contre ces anarchistes qui a nourri cette réflexion. Et ce que veulent des partis comme... alors je ne dis pas que les Podemos sont des anarchistes, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que la réflexion des Podemos sur la prise du pouvoir, elle est là. C'est qu'on ne peut changer les choses que si on a le pouvoir. Et le pouvoir, il n'est pas, dans les idées, il est aussi dans les actes. Et voilà, et on voit très bien comment l'évolution de l'anarchie a nourri aussi ces forces de progrès et tous les mouvements révolutionnaires qui en sont nés, et la Commune en est un très très bel exemple. Et c'était une belle utopie qui a été écrasée par les balles et par les canons.
Ouais, on n'a pas trop parlé encore de la dimension anticléricale, quoi, parce que c'est quand même, il faut se remettre un peu dans l'époque, 19e siècle. Voilà, l'importance de la religion, de l'Église à l'époque est vraiment très importante. Et c'est une dimension d'anarchisme de lutter contre ça, quoi, contre la religion, l'importance de la religion et l'importance de la religion dans finalement un certain aspect de la hiérarchie sociale, quoi. Telle qu'elle est.
Alors dans le documentaire hein, de Tancrède de Ramonet, il n'y a pas trop cette vision justement anti-religion. Je ne sais pas ce que tu en penses, François. Donc
on va... finalement, il en parle un peu. Alors je ne sais plus si dans le premier ou dans le deuxième, parce que je l'ai vu il y a quelques jours. Mais il y a quand même cette question-là, puisque finalement la religion c'est quoi ? C'est se mettre, enfin la religion dans sa phase organisée, donc c'est-à-dire avec une église, quelle qu'elle soit, enfin que ce soit catholique ou autre. C'est des gens qui pensent à la place d'eux, qui imposent des choses, etc. Ce que disent les anarchistes, certains anarchistes en tout cas, pas forcément les plus extrêmes d'ailleurs, c'est qu'on peut croire en un dieu, mais on ne suit pas une religion. Donc on peut être contre la religion tout en croyant en dieu. Et on a des mouvements, par exemple, pour aller sur d'autres terrains, mais des prêtres communistes qui pouvaient associer voilà, des différentes utopies. Et on peut très bien avoir des anarchistes qui croient en dieu. Étrangement. Et voilà. Et pourquoi ? Parce que la question n'est pas la croyance, mais la question est l'assujettissement. Et être dans une église, c'est non pas croire en Dieu, mais croire en ce que dit un pape, un évêque ou un curé. Et c'est pas parfois, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent.
On peut faire peut-être une petite pause musicale avec justement un titre qui s'appelle « Ni Dieu ni Maître » que tu as choisi pour nous, Boris.
Ouais, c'est la canaille.
C'est parti.
Ça sert vraiment d'avoir la foi éperdument. J'en perds mes mots, serre les dents quand je pense comme c'est percutant. On perd du temps, espère du vent. On se positionne à tort alors que la vérité crève l'écran. Mais dic-dong, à la question d'où vient-on, je réponds Big Bang. Évolution, touche des frères de King Kong. Quiconque prétendrait le contraire serait fou. Touche des mammifères, mon frère, doté de raison, c'est tout. Ni Dieu ni maître. Prier l'Immaculé pourrait t'apporter à part nous faire reculer, nous basculer dans je ne sais quoi, se mettre à fabuler, ne plus miser sur soi, mais croire en Dieu et l'aduler. Les derniers seront les premiers, c'est comme ça qu'ils nous font danser. Quand vous serez morts, je vous jure, vous serez récompensés. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on en sait? Rien qui peut compenser le fait qu'il faut toujours croire sans voir et s'en contenter. Donc, en condensé, restons sensés. Pas question d'encenser l'insensé, non, non. En condensé, restons sensés. Il n'est pas question d'encenser l'insensé. À des rois, facile de prêcher la foi quand on pète dans la soie. Nous, c'est les dettes en fin de mois, la diète en fin de droit. Et ils se permettent de juger nos actes, mais enfin quoi? Qui sont d'abord ces vieux cons, dealers d'opinion, pour nous faire la leçon, dire ce qui est bon du haut de leurs millions. Une puissance politique qui se place et ses pions aux visées prolifiques, leur dire je m'entorche le fion, qu'ils aillent tous faire maître, ni Dieu ni maître. Mon père né au berceau, je veux plus de parois à ma fenêtre, j'ai dit qu'ils aillent tous faire maître, ni Dieu ni maître. Mon père né au berceau, je veux plus de parois à ma fenêtre, ni Dieu ni maître.
Vous êtes toujours en direct sur le Radio PFM 99.9, en direct donc du plateau, enfin de l'hôtel de Guine à Arras, où c'est un peu l'anarchie d'ailleurs, et avec le cabaret des colères. Donc on est avec François, Nico à la technique, pour parler justement de l'histoire de l'anarchie, documentaire qui sera projeté ce soir à 20h30, donc à l'hôtel de Guine. Si vous voulez franchement connaître un petit peu l'historique très très bien documenté, eh ben, il faut venir parce que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, ça brasse plutôt large. Et puis notamment l'anarchie, donc ça explique un petit peu son histoire. Et puis comme on évoquait juste avant la pose des bombes, hein, d'ailleurs la première bombe a été posée, si je me souviens bien, par Ravachol, qui a eu ses droits à sa Ravachol, genre la Carmagnole. Hein, je crois qu'il y a eu un chant aussi qui a été diffusé. Et donc c'est là aussi la naissance de l'Internationale anti-autoritaire. Et la grève générale, enfin, et puis une figure emblématique féminine de l'anarchisme qui est à l'origine du drapeau noir, d'ailleurs, c'est Louise Michel, François.
Exactement. Alors, quand tu dis que l'hôtel de Guine, c'est l'anarchie, en fait, il faut savoir que l'anarchie, c'est le désordre, et le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir. Donc,
voilà.
Vive le désordre.
Exactement.
Sinon, concernant Louise Michel, oui, c'est une figure marquante. C'est une figure assez romantique, finalement. C'est quelqu'un qui on le voit bien dans le documentaire, qui était quelqu'un qui pensait beaucoup, qui a beaucoup réfléchi à ses théories politiques, etc., qui a voulu agir beaucoup aussi, qui a voulu la peine de mort pour servir d'exemple, qui voulait servir d'exemple. Et on voit à quel point elle a construit son personnage aussi dans ce documentaire. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui en plus a incarné une certaine volonté d'agir en tant que femme. Et c'est une figure en plus qui a nourri le féminisme de manière générale. Quand on voit par exemple dans les années 20 ou non dans les années 30 des volontés d'enfouissement d'armes etc. dans les campagnes anglaises. Et que ce sont les femmes qui se sont mobilisées pour éviter que ces armes soient cachées à proximité des fermes et des familles, etc., on voit qu'elles se revendiquent de Louise Michel. Louise Michel, c'est vraiment une figure marquante de ce mouvement anarchiste et du mouvement de révolte en général. Et en plus, c'est elle aussi qui, effectivement, a mis le drapeau noir en avant, quoi. Et ça, c'est très fort parce que c'est devenu la marque de fabrique des anarchistes qui n'avaient pas ce drapeau noir.
Qui était rouge au départ.
Voilà.
Les communistes ont récupéré le rouge, autant qu'international.
Et ben justement, en parlant d'international, hein, l'hymne des travailleurs du Parti communiste, qui a été composé par Eugène Potier, mais il a été dédié aussi surtout à un anarchiste qui s'appelait Gustave Lefrançais, avec son fameux deuxième couplet qui est un petit peu, qui a été édulcoré. Ce deuxième couplet qui disait dans l'international, il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu. Ni Dieu ni maître, voilà, c'est là où c'est venu un petit peu le slogan un petit peu des anarchistes en particulier. Une autre figure emblématique également, c'est un Russe, Bakounine.
C'est une question.
Ouais. Si tu peux m'éclairer un petit peu, tu seras notre historien aujourd'hui. Qu'est-ce que oui. Sergueï Bakounine.
Oui, alors bon, c'est vrai que on voit très bien aussi dans ce documentaire. Alors, je pense qu'il faut parler bien sûr des personnages, parce que le documentaire bascule des mouvements collectifs à des personnages qui ont nourri ce collectif. Et la partie russe est très intéressante, parce que on voit à quel point les anarchistes russes ont aidé la révolution, et quel point après ils se font balayer par des gens qui prennent le pouvoir, après qu'ils se revendiquent du communisme ou d'autres choses. Mais en tout cas, ce sont d'abord des gens qui ont voulu le pouvoir. Ils se sont revendiqués du communisme parce que c'est là qu'ils ont trouvé la force de prendre ce pouvoir. Après, des évolutions comme celle de Staline, ce sont des évolutions qui sont en dehors de l'utopie, qui sont des évolutions de personnes qui voulaient un pouvoir fort. Enfin bref, c'est autre chose. Mais en tout cas, on voit comment les anarchistes ont été utilisés, parce que finalement, les anarchistes, c'était la force qui mobilisait beaucoup, beaucoup plus que les communistes au départ. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est le parallèle qu'on peut faire avec la guerre d'Espagne, où l'on voyait qu'en Espagne, en 1936, il y avait 2,5 millions de militants anarchistes pour 300 000 ou peut-être même moins militants communistes, et que finalement les communistes ont pris aussi ce pouvoir et ont essayé justement de réduire l'importance de l'anarchie, parce que l'anarchie c'est l'ordre moins le pouvoir, et que peut-être que le communisme vu du point de vue de l'URSS et du monde soviétique, c'était avant tout le pouvoir.
On va essayer de ne pas dépasser dans cette émission.
C'est, alors, c'est un peu difficile hein, de parler de l'anarchisme comme ça. On ne parlera pas donc de la grande révolution libertaire au Mexique en 1910, où quand même, c'était quand même avec le PMM, le PLM, Parti libéral mexicain, et les frères Flores Magón. On ne parlera pas non plus du massacre de Sacco et Vanzetti, qui est quand même une des figures également importantes. Une figure incontestable également, c'est Malatesta, qui a toujours été un petit peu le contrôleur un petit peu de tout ça, qui remettait tout à plat. Il y a plein de choses à s'intéresser.
Alors, le film, hein, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, c'est ce soir à 20h30 à l'hôtel de Guina Arras. Il y a François qui a aussi le livre dans ses mains, parce qu'il y a un livre qui a inspiré le film, ou c'est le film qui a inspiré le livre ?
Alors, c'est né du livre, en fait. Tout est né du livre. C'est le livre de Gaetano Manfredonia qui s'intitule « Histoire mondiale de l'anarchie », qui a été créé sur une idée de Tancrède Ramonet, et Tancrède Ramonet a fait ensuite le documentaire. Et l'ensemble fait l'objet aussi d'une exposition que l'on peut voir à Courrières en ce moment à la médiathèque François Mitterrand, rue des Acacias. Et ce documentaire sera d'ailleurs aussi diffusé là-bas vendredi, en présence cette fois-ci d'un représentant de la
on
de
espère,
la
espère, on espère.
Allez, salaud.
Allez, eh ben, merci François de m'avoir accompagné anarchiquement sur ce plateau aujourd'hui pour parler d'une chose qui, franchement, on aurait pu en prendre 3 heures. Et on va se quitter avec justement un groupe qui n'est pas vraiment un groupe, ça s'appelle Achab, et le titre, ça s'appelle Black Block. Évidemment, ça évolue sur ce troisième documentaire qui est en cours de finition, mais qui a du mal à les terminer, et dont, justement, Tancrède Ramonet, eh ben, fait partie pour qui a signé ce générique de ce fameux film.
C'est de montrer aux hommes la générosité, la grandeur et la beauté de l'idéal anarchiste. La justice sociale réalisée par l'organisation libre des producteurs. La guerre et le militarisme à jamais supprimés. La liberté entière conquise par la destruction totale de l'État et de ses organismes de coercition. Vive l'anarchie!
Car notre sang bleu est noir. Notre drapeau rouge est noir. Notre étoile jaune est noire. Notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir. Notre drapeau rouge est noir. Jaune et noir, notre vie en rose et noir.
Mathieu.